Histoire extraordinaire d'Eure-et-Loire, une émission présentée par Christophe Jubien et Philippe Collonge. Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir dans l'émission Histoire extraordinaire d'Eure-et-Loire. Et croyez-moi que l'histoire dont nous allons vous parler aujourd'hui, elle est vraiment extraordinaire. C'est l'un des récits les plus palpitants qu'on retrouvera dans vos curiosités historiques et littéraires d'Eure-et-Loire, cher Philippe Collonge. Et cette histoire met en scène deux Eure-et-Liens, dont un a laissé une vraie trace dans l'histoire en sa qualité de mathématicien et de physicien, c'est Michel Challes, né Floréal le 15 novembre 1793 à Épernon, et dont vous allez, cher Philippe, nous brosser le portrait tout à fait ressaisissant. Pourquoi Floréal ?
Ah ben on est en 1793, alors naturellement la mode est au changement. Changement de prénom, changement des mois du calendrier, etc. Et Floréal, c'est un prénom qu'il n'a pas gardé d'ailleurs. Oui. Il avait heureusement un deuxième prénom, Michel, plus facile à porter, et il est connu sous le nom de Michel Challes. Mais sa famille est une famille bien implantée à Chartres et dans la région, puisque lui naît à Épernon. Il a un frère qui va devenir quelques années plus tard, sous Louis-Philippe, le maire de Chartres. Son père est un gros marchand de bois, un bourgeois bien enrichi. Et il a un oncle, alors l'oncle lui dénote un peu dans cette famille bourgeoise. L'oncle est un révolutionnaire qui se qualifiait lui-même de montagnard au plus haut de la crête et qui a voté la mort de Louis XVI.
Montagnard, c'était quoi ? Rappelez-nous ce que c'était.
Ah bah, les montagnards, c'est-à-dire qu'au moment de la Révolution, l'Assemblée des députés se composait de Girondins, qui étaient des gens plutôt modérés, et de Montagnards. On les appelait ainsi parce qu'ils siégeaient en haut de l'Assemblée. Et donc, c'était eux qui... allez, on pourrait peut-être les comparer un peu...
J'allais vous le dire, à la France insoumise.
À la France insoumise de l'époque, oui, absolument. Mais avec quand même des méthodes qui étaient assez tranchantes, c'est le moins qu'on puisse dire.
Donc c'est une famille aisée, une belle naissance qui permet justement au jeune Michel de mener des études vraiment très brillantes.
Oui, c'est un brillant étudiant. Il va entrer à Polytechnique, qui est une école qui vient d'être créée par Napoléon. On est dans les premières années du 19e siècle. Et donc il va devenir un savant reconnu, physicien, mathématicien. Alors moi, je ne suis pas très versé en mathématiques, mais on retient de lui... comme on retient le théorème de Pythagore, eh bien on retient la relation de Challes. Alors je ne vous en dirai pas plus, sauf que la relation de Challes me paraît d'une simplicité biblique, mais je ne saurais la démontrer. La relation de Challes, c'est AB plus BC égale AC. Moi, ça me paraît évident sans être polytechnicien, mais peut-être que j'aurai beaucoup de mal à vous le démontrer.
Par intuition, disons.
Voilà,
par intuition,
voilà.
Alors, les sociétés savantes de l'Europe entière se l'arrachent. C'est un homme brillantissime, donc le créateur de la fameuse relation de Challes. Et il a une deuxième passion, et c'est là que notre histoire commence.
Il a une passion tout à fait extraordinaire pour la... C'est un bibliophile averti. Et surtout, il collectionne, ce qui se faisait beaucoup à cette époque, les autographes. Donc les signatures des gens célèbres, les lettres qu'il se met à déchiffrer avec beaucoup de talent. Il a donc accumulé au fil des années un certain nombre de documents et il va faire sensation alors qu'il a presque 70 ans. Un jour de juillet 1865, alors qu'il préside une assemblée sous la coupole, puisqu'il est de l'Académie des sciences, il va faire une révélation qui va bouleverser le monde scientifique. Il va dire « ça n'est pas du tout Newton, comme on le prétend, qui a découvert les lois de l'attraction universelle, mais c'est Blaise Pascal, notre Français Blaise Pascal, quelques années auparavant ». Naturellement, les Anglais sont ulcérés, bien sûr, on le comprend. Et puis, les collègues de Challes se posent quand même quelques questions sur le fondement de cette affirmation. Mais à chaque fois qu'on élève une objection, Challes peut ressortir un document qui lui permet de montrer une nouvelle fois qu'il a raison, ouais, et que son affirmation est tout à fait justifiée. D'autant plus qu'il va continuer ses révélations.
Ben oui, parce que d'autres relations arrivent pour d'autres personnages. Et,
par exemple, il va prétendre que ça n'est pas du tout l'astronome Huygens qui a découvert les satellites de Jupiter, mais qu'il s'agit au contraire de Galilée. Ouais. Quand on sait que Galilée a été aveugle à peu près à la moitié de sa vie, on a du mal à penser qu'il avait une vue suffisamment perçante pour trouver les satellites de Jupiter. Mais à chaque fois, il fournit des documents.
Jusqu'au jour tout de même où le directeur de la Bibliothèque nationale de Florence le confond en établissant qu'il s'agit
au bout de 4 ans, on le confond effectivement et on lui démontre que les documents qu'il a présentés sont des faux et que c'est une collation plus ou moins intelligente de pièces que l'on a collationnées à gauche ou à droite et qui n'ont vraiment aucune valeur scientifique. Ouais. Et lui-même est surpris car il était de bonne foi. Charles est un homme de bonne foi. Il n'a pas voulu tromper les scientifiques de son époque.
Oui.
Il a été lui-même trompé et ayant été abusé, il est amené à donner ses sources.
Oui,
et cette fois-ci,
Ces lettres, hein, ces autographes extraordinaires que Michel Chasles avait, finalement, il les avait achetés à un seul personnage qui s'appelle donc Vrain Lucas, qui est le deuxième compère de l'histoire. Alors, qui était ce Vrain Lucas? D'où venait-il?
Oui, alors, compère, encore une fois, Charles est tout à fait innocent. Hein, il est d'une naïveté confondante, on le verra. Mais il a, dans les années 1861, eu la visite d'un petit personnage assez obséquieux, bien élevé, qui le regardait avec considération et qui lui a dit « Monsieur Charles, nous sommes du même pays. Moi, je suis né à Lanneray, près de Châteaudun. Vous, vous êtes né à Épernon. Nous sommes des Euréliens, vous et moi. Et nous faisons tous les deux partie de la Société archéologique de Eure-et-Loir. »
Oui, c'est ça, qui existait déjà.
Oui, qui a été créée en 1856, quelques années auparavant. Et donc, cette espèce de communauté d'intérêt fait qu'ils ont entamé une discussion et le dénommé Vrain Lucas, qui avait une dizaine d'années de moins que Michel Chasles, lui dit « Mais moi, j'ai des documents qui peut-être peuvent vous intéresser, puisque je sais que vous êtes collectionneur. »« Ah bon, montrez-moi ce que vous avez. » Et donc, la première pièce que lui présente Vrain Lucas, c'est une lettre autographe signée de Molière. C'est exceptionnel, on n'a jamais vu la signature de Molière sur aucun document. Alors, naturellement, Charles dit, mais c'est formidable, vous en avez d'autres comme ça? Oh, j'en ai plein, des malles entières, et je pourrais vous les procurer pour un prix tout à fait modeste. Alors, bon, Charles est naïf, mais enfin, et quand même, il demande quelques explications. Et Vrain Lucas fournit une explication qui va satisfaire le savant en lui disant « C'est la famille de Boisjourdain, je suis obligé de parler bas parce que ce sont des gens qui ont eu une histoire assez compliquée, ils ont émigré en Amérique et puis ils sont revenus sur un bateau qui a fait naufrage, tous les documents qu'ils avaient accumulés pendant des années ont été plus ou moins souillés par l'eau de mer, d'ailleurs c'est pour ça que certains d'entre eux ne sont pas vraiment très présentables mais ils sont encore lisibles. » Et bref, il avait arrangé cette affaire d'une telle façon que Charles est tombé dans le panneau, il l'a cru et puis il avait tellement envie de le croire que naturellement il n'a pas résisté à l'astuce de Vrain Lucas.
Il a déboursé au total 150 000 francs de l'époque.
150 000 francs or.
C'est beaucoup.
Alors,
hein.
Il faut savoir que Vrain Lucas lui a procuré en 8 ou 9 ans, puisqu'en 1861, ça a été la première visite, et 1869, ça a été la révélation. Donc en 8 ans, il lui a procuré plus de 27 000 documents, autographes, signatures. 27 000. Ça représente 10 faux fabriqués par jour.
Donc il usinait comme un fou.
Ah ben, il travaillait nuit et jour pour gratter. il avait un talent particulier, c'est qu'il avait inventé une encre.
Oui, c'est ça.
Qui était indécelable, c'est-à-dire que les plus grands experts se sont penchés sur cette encre, ils n'ont pas pu déceler quelle était l'origine des mélanges qu'il avait fait, mais en tout cas, on pouvait tout à fait authentifier cette encre comme étant ancienne.
Et puis il rendait, on avait l'impression que les papiers étaient vieux.
Il fréquentait beaucoup les bibliothèques, et donc il découpait discrètement un certain nombre de feuilles vierges dans des vieux parchemins, etc., qu'il remaniait, qu'il retravaillait, etc. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que certaines de ces lettres pouvaient surprendre quand même. Alors, j'ai quelques exemples, je vous en citerai oui. quelques-uns, mais il y avait des lettres d'Alexandre le Grand, des lettres de Cléopâtre,
qui
d'Attila,
était cette... oui, ah oui, oui, d'accord.
de Charlemagne.
De Cléopâtre à César. Hein.
De Cléopâtre à César. Alors, oh, bon, naturellement, quand même, Charles était naïf, mais il lui a dit, mais comment se fait-il que toutes ces lettres soient rédigées en français, d'une part, et d'autre part, qu'elles soient rédigées dans un français de la Renaissance. Ah, il avait une explication. Ah, mais vous savez, monsieur Charles, c'est que c'est Rabelais lui-même, François Rabelais, qui, à la demande de François Ier, a transcrit tous ses documents en français de la Renaissance, documents qui avaient été accumulés sous le règne de Charlemagne par un moine anglais extrêmement érudit, qui était l'abbé de l'abbaye de Chartres, de Tours, pardon, et qui avait accumulé tous ces documents au fil des années.
Et d'ailleurs, il y a même une lettre de François Ier à Rabelais hein, dans le...
Alors naturellement, bah oui, bien sûr, il y avait pour justifier ça, le lendemain, il apportait une lettre de François Rabelais disant au roi de France qu'il avait effectivement traduit tous ces documents et qu'il les mettait à la disposition du royaume. Alors, naturellement, on trouve des lettres de Judas à Marie-Madeleine, ou de Marie-Madeleine à Lazare, de Dagobert à Saint-Éloi, de Louis XIV à Galilée, alors que...
Ils sont tous là, hein.
Quand Galilée meurt, Louis XIV a 4 ans, donc on peut difficilement penser qu'il écrivait à Galilée. Il ne manque, en fait, qu'une missive d'Adam à Ève. Ça, il n'a pas osé quand même la faire. Mais c'est tout à fait extraordinaire.
On se demande, mais quel grand naïf que ce grand mathématicien. Et c'est surprenant quand même.
Et oui, alors je pense que la passion aveugle. La passion l'avait aveuglé et il était... Puis c'était bien fait quand même.
Oui. Hein.
Alors, il y avait quelques erreurs ouais. historiques, quelques approximations historiques. Mais il n'avait pas accroché là-dessus. Et les explications que lui fournissait à chaque fois Vrin-Lucas lui paraissaient satisfaisantes. Alors, j'ai ici quelques-unes de ces lettres, si vous voulez, on peut en lire une
ah,
ou deux.
Ah oui.
Et j'ai, par exemple, la lettre de Cléopâtre à Jules César, qui lui parle de son fils Césarion. « Mon très aimé, notre fils Césarion va bien. J'espère que bientôt il sera en état de supporter le voyage d'ici à Marseille, où j'ai dessein de le faire instruire, tant à cause du bon air qu'on y respire que des belles choses qu'on y enseigne. » Parce que dans chaque lettre, il essayait de valoriser la France, de valoriser le patrimoine. C'était un faussaire qui aimait son pays, qui aimait sa région. Et par conséquent, à chaque fois, il faisait intervenir, il faisait un clin d'œil, en fait, à sa mère patrie.
Oui, parce que le seul César qu'on connaisse de Marseille, c'est celui de
oui,
Pagnol. Hein.
C'est un autre. Alors, j'ai aussi une lettre là de Madeleine à son très aimé Lazare. « Mon très aimé frère, ce que me demandait de Pétrus, l'apôtre de notre doux Jésus, me fait espérer que bientôt le verrons ici et me dispose à l'y recevoir. Notre sœur Marthe s'en réjouit aussi. Sa santé est fort chancelante et je crains son trépas. C'est pourquoi je la recommande à vos bonnes prières. »
Oui, il n'est pas certain que les Juifs de l'époque parlaient de cette manière.
Hein. Ben oui, tout à fait. Non, mais c'est donc des lettres de Dagobert à Saint-Éloi, etc. On n'arrête pas. Plus de 27 000 lettres. C'est tout à fait étonnant.
Est-ce que c'était le seul, si j'ose dire, le seul client de Vrin-Lucas, Michel
oui,
Charles
oui. Là, il avait trouvé son client. Ah, oui. Il lui vendait ça pas très cher, d'ailleurs. Il lui disait, avec monsieur de Boisjourdain, qui est un vieillard qui vit renfermé, etc., je me suis arrangé pour vous avoir ces documents à un prix tout à fait correct. Vous avez parlé de 140 000 francs or tout à l'heure. Ça représente entre 300 et 400 000 euros. Ce qui est quand même une belle somme. Mais 27 000 documents à ce prix-là, ça fait entre 10 et 15 euros du document, ce qui est un prix tout à fait raisonnable. Et d'ailleurs, Vrin-Lucas disait, moi, je ne prends là-dessus qu'une très modeste commission.
Ouais. Et ces lettres-là, par exemple, celles de César à Cléopâtre, ou de Cléopâtre à César, je ne sais plus, est-ce qu'il les a montrées, Michel Charles, il les a montrées à...
Alors,
la...
Il se servait de ces lettres surtout pour affirmer un certain nombre de positions scientifiques. C'était le cas de Galilée, ça a été le cas de Blaise Pascal et de Newton, etc. C'est-à-dire que elle lui servait de démonstration, si vous voulez. Je ne pense pas quand même qu'il ait allé devant tout le monde les lettres de Marie-Madeleine à Lazare. Ouais. Hein.
Alors l'histoire, évidemment, se termine au tribunal en 1870. Comment le procès se déroule-t-il ?
Alors, il se déroule... D'abord, le procès a été un peu abrégé à cause de l'explosion de la guerre de 70 entre les Français et les Prussiens. C'est-à-dire que ça s'est déroulé d'abord sous les rires. Charles, très courageusement, a assisté au procès et a supporté les quolibets avec beaucoup de dignité, en disant « oui, je me suis trompé », il a reconnu qu'il avait été roulé dans la farine. Mais l'ami Vrin Lucas s'est défendu assez habilement, en disant « vous savez, moi, je ne faisais que essayer de rétablir certaines vérités ou de lancer quelques hypothèses qui n'étaient pas dénuées de fondement, etc. » Et puis, il disait surtout « mais Monsieur Charles était insatiable ». Il m'en demandait toujours plus. Et chaque fois que je lui apportais une lettre, il me disait « Mais est-ce que vous pourriez me prouver qu'un certain nombre d'éléments qui sont dans cette lettre sont bien fondés ?» Alors j'étais obligé de lui apporter une nouvelle lettre pour étayer la précédente.
Il lui a fait plaisir, quoi, c'est ça.
Et il lui a fait plaisir. Et il s'est fait quand même plaisir avec 300 ou 400 000 euros, enfin, la correspondance de cette somme. Alors, ça s'est terminé au tribunal de façon relativement douce. Il a eu quand même 2 ans de prison, Deux ans de prison, une petite amende. On n'a pas retrouvé l'argent. Il a dit que non, il avait plus, il savait pas où était passé l'argent, non, vraiment. Bref, il n'a jamais remboursé le malheureux Charles, qui n'a pas insisté d'ailleurs. Et Vrin Lucas a donc passé les années un peu difficiles, les années 1870, tranquillement en prison.
Finalement, il s'en est vraiment bien tiré,
pas mal tiré,
de bout en bout. Hein.
Absolument. Et donc, il est sorti de prison et il a repris ses activités.
Ben oui, il a recommencé ses escroqueries. Qu'est-ce qu'il a fait, là ?
Alors, il a escroqué un chanoine à qui il a dérobé la moitié de sa bibliothèque. Il était un fou de livres, si vous voulez. Ce qu'il faut rappeler, quand même, c'est d'où il vient, ce Vrin Lucas. Oui. C'est un fils de simple paysan de la région de Châteaudun. Il est né à Lameray. Et il a simplement bénéficié des leçons qui lui ont été données par le curé du village, qui lui a appris à lire, à écrire. Il s'est passionné pour les vieux écrits. Il a travaillé au greffe du tribunal de Châteaudun. Il s'est énormément documenté, mais il avait des lacunes énormes. Donc, c'était à la fois un puits de science avec des moments où il était complètement perdu. Et c'est pour ça qu'on trouve dans ses écrits un certain nombre d'erreurs qui nous font rire maintenant dont on se demande comment notre pauvre Charles a pu tomber dedans. Ouais.
Hein. C'est un mélange d'escrocs et puis de type un peu naïf quand même, un peu...
Oui, c'est un gentiment illuminé, absolument. Et il est plutôt sympathique. C'est un personnage tout à fait hors norme.
Ouais. Et Michel Charles, lui, j'imagine que sa réputation a dû en souffrir, sa réputation d'homme de science.
Oui, mais enfin, il avait quand même derrière lui un passé qui plaidait en sa faveur sur le plan scientifique. Hein. Il avait déjà plus de 70 ans quand cette affaire s'est déroulée. Par conséquent, il y a eu un immense éclat de rire qui s'est éteint assez rapidement, comme je l'ai dit, parce que la guerre de 70 a interrompu un peu tout ça. Et donc, il a continué à collectionner ses autographes. Les 27 000 qu'il avait recueillis, ou 28 000 qu'il avait recueillis de Vrin Lucas, ont été naturellement réquisitionnés. Et ils ont été détruits, ce qui est dommage. On en a gardé quand même à la Bibliothèque nationale environ 180 ou 200, qu'on peut consulter d'ailleurs, et c'est très amusant. Moi, j'ai pu en consulter un certain nombre, et c'est pour ça que j'en ai cité dans mon ouvrage quelques-uns qui étaient particulièrement amusants.
Celle de Madeleine à Lazare est formidable.
Ah, oui,
le doux Jésus.
Oui, il faut le faire. Mais alors, donc, notre ami Vrin Lucas va sortir de prison. Et puis, il se relance un peu dans des escroqueries. Il va refaire encore un peu de prison. Il va terminer sa vie à Châteaudun. Il retourne à Châteaudun. Et la plupart des auteurs disent « Mais on ne sait pas ce qu'il est devenu. » Si, on retrouve très bien la date, la trace de son décès en 1881 à Châteaudun. Et on voit d'ailleurs sur l'avis de décès qu'il était marié. Alors on ne sait pas s'il avait des enfants ou pas. Sa femme était déjà décédée. Mais enfin, il avait une vie de famille. Je pense que... en dehors des nuits qu'il devait passer à rédiger tous ces documents.
C'était un excellent père de famille, un excellent mari.
Un excellent père de famille, du moins on le suppose.
Et Michel Chat, lui, est mort quelques mois plus tôt. Hein.
Alors oui, notre ami va mourir en 1881. Au mois d'avril, et 4 mois plus tôt, Michel Chal est mort, et très curieusement, il avait 88 ans, ou presque 88 ans.
Oui. Très âgé à l'époque, ça.
Eh oui, très âgé. Il est né en 1793, il meurt en 1881. Oui. Donc, il a presque 88 ans. Et il va mourir, dit-on, d'une indigestion comment dire
de guimauve, je crois.
De pâte de guimauve, c'est ça, de pâte de guimauve, ce qui prouve que ce grand savant était resté jusqu'à la fin un grand naïf et un grand enfant. Voilà.
Merci, merci beaucoup. Philippe, je rappelle que ce récit Chat, Lévrin, Lucas ou l'incroyable imposture, chers auditeurs et auditrices, vous le retrouverez en vous procurant le livre de Philippe Collonge, un livre donc intitulé Curiosité historique et littéraire d'Eure-et-Loir, c'est paru aux éditions EM et on le trouve dans toutes les librairies auréliennes.
Absolument.
À très bientôt. Merci beaucoup.
Merci, merci.
Sans passer les lumières qui nous guidaient, peut-être étions-nous trop fiers pour baisser la tête. Le monde a tourné sans nous, sans nous attendre. Les ténèbres sont partout, ouvertes de cendres. Souviens-toi que l'on s'aimait, que l'on s'aimait quand même. Nous étions si jeunes, si fiers. Comment le dire? Nous avons perdu la lumière, l'étoile. Tu caressais nos paupières. Tout m'est égal. et les lumières. Devenue statue, devenue statue de pierre. Qu'avons-nous fait? Les instants comme des